Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, le Mali qui redevient premier producteur de coton en Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères qui a entamé une tournée dans 4 pays africains et Moscou qui réagit à une prétendue guerre avec l'Allemagne évoquée par un média. Les États-Unis poursuivent leur frappe contre le Yémen, les Houthis visent un navire américain et l'Iran attaque la capitale du Kurdistan irakien à l'aide de missiles balistiques. Un ancien colonel algérien, un expert béninois en problématique du terrorisme, ainsi qu'un panafricaniste burkinabé nous livreront leurs analyses des événements au Moyen-Orient. Les pays de l'AES vont créer prochainement une commission tripartite afin de booster leur coopération. Un chef d'entreprise burkinabé et un politologue tunisino-suisse commenteront ce projet. Le Mali est redevenu leader en matière de production de coton sur le continent africain. Selon les données d'une réunion du comité de pilotage du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, tenue fin décembre 2023, Bamako a produit 690 000 tonnes de coton l'année dernière et relégué le Bénin à la deuxième place avec 553 787 tonnes. Le Burkina Faso complète le podium avec 407 500 tonnes. Suivent ensuite la Côte d'Ivoire avec 394 631 000 tonnes, le Cameroun avec 350 000 tonnes et le Tchad avec 108 375 tonnes. Le Mali va se doter prochainement d'une nouvelle usine d'égrainage dont la construction a été lancée en décembre 2023. 50 000 tonnes de coton par an y seront traitées sur place. Elle sera située à Kokofata dans la région de Kayes et viendra doubler la capacité de la première usine implantée sur place. 250 emplois directs et 1000 emplois indirects seront créés par cette nouvelle fabrique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Xi, est actuellement en tournée sur le continent africain. Les pays visités par le chef de la diplomatie chinoise sont l'Égypte, la Tunisie, le Togo et la Côte d'Ivoire. Le déplacement d'un chef de la diplomatie chinoise en Afrique à cette période de l'année n'est pas anodin. Depuis 1991, c'est même une tradition de commencer leur voyage d'une nouvelle année par ce continent. Cette tournée s'inscrit dans le contexte de préparation du Forum de coopération économique sino-africain qui vise à renforcer les relations économiques entre Pékin et le continent africain. En outre, la visite de Wang Yi a également pour but de consolider l'élan d'unité et de coopération entre la Chine et l'Afrique. Un autre officiel chinois, Liu Guozhong, représentant spécial du président Xi Jinping et vice-premier ministre du Conseil d'État, s'est rendu en Ouganda pour le 19e sommet du mouvement des non-alignés qui a commencé le 15 janvier et pour le 3e sommet du Sud du groupe des 77, un bloc de pays en développement. Il devrait visiter également l'Algérie, le Cameroun et la Tanzanie. Pour rappel, lors du dernier dialogue des dirigeants Chine-Afrique l'an passé, Xi Jinping a proposé 3 nouvelles initiatives de coopération pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique, la modernisation de l'agriculture et le développement des talents. Le quotidien allemand Bild se serait procuré un document secret de la Bundeswehr sur une prétendue escalade à venir entre la Russie et l'OTAN. Selon la publication, celle-ci démarrerait en février prochain et des dizaines de soldats allemands seraient envoyés au combat peu après. Toujours d'après le journal, l'Ukraine devrait finalement perdre après une offensive réussie de Moscou. Bild indique que la Russie lancerait vers le mois de juillet des cyberattaques contre l'Occident et plus particulièrement contre les pays baltes. Ensuite, des affrontements serviraient de prétexte au lancement d'exercices à grande échelle par Moscou en Biélorussie. Le journal ajoute qu'un conflit pourrait éclater en décembre dans le corridor de Souvalki, une zone de 100 km entre la Biélorussie et la région de Kaliningrad. Enfin, le quotidien allemand annonce qu'en mai 2025, l'OTAN déciderait de mesures de dissuasion et déploierait 300 000 militaires dans l'est de l'Europe. La diplomatie russe n'a pas tardé à réagir aux allégations faites par ce média allemand. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, s'est montrée sarcastique et qualifié ces informations d'horoscope puissant de l'année dernière pour le poisson en cancer. Elle a ensuite ajouté qu'elle n'excluait pas que ce soit le ministère allemand des Affaires étrangères, sous la direction de sa ministre, Madame Baerbock, qui ait fourni la partie analytique à l'armée allemande. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de faire de commentaires sur ces affirmations, venant d'un média qui ne dédaigne pas d'écrire divers intox. Pour rappel, ces dernières années, la Russie a fait état d'une activité sans précédent de l'OTAN à proximité de ses frontières et exprimé son inquiétude à ce sujet. Le Kremlin a fait remarquer que la Russie ne menaçait personne, mais qu'elle n'ignorerait pas les actions qui pourraient constituer un danger pour ses intérêts. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou restait ouvert au dialogue avec l'OTAN, mais sur un pied d'égalité et à condition que l'Occident abandonne sa politique de militarisation du continent. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Les tensions au Moyen-Orient continuent de s'intensifier. Ce mardi 16 janvier, le corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a mené des attaques sur Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, en utilisant des missiles balistiques. Selon Téhéran, il s'agit d'une réponse aux récentes attaques terroristes et les missiles ciblaient les quartiers généraux des espions et des groupes terroristes anti-iraniens. Cette frappe est la plus longue attaque de missiles balistiques à laquelle Téhéran ait participé, à environ 1200 km de distance. Mehran Kamrava, professeur de gouvernement à la Georgetown University Qatar, a indiqué à Spoutnik Afrique qu'il s'agissait d'une démonstration délibérée de la part de l'Iran pour s'assurer que ses capacités en matière de missiles soient connues. Auparavant, les États-Unis ont poursuivi leurs attaques sur le Yémen. Dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier, ils ont de nouveau pris pour cible le territoire yéménite en visant une installation radar des Houthis dans le nord du pays. Cette attaque fait suite à une précédente qui avait été menée par Washington, mais également de son allié britannique. Un représentant des Houthis avait indiqué que dans la nuit du 11 au 12 janvier, 73 frappes avaient été menées par les deux pays occidentaux. Les conséquences de ces attaques se sont déjà faites ressentir sur les marchés. Le prix du pétrole a dépassé le seuil des 80 dollars quelques heures après l'attaque vendredi. Si pour le moment les autorités du canal de Suez affirment que le trafic de navires reste régulier, malgré la suspension des opérations par certaines compagnies maritimes, les autres pourraient à l'avenir préférer contourner le continent africain plutôt que de poursuivre sur l'itinéraire de la mer Rouge. En effet, les Houthis ont prévenu qu'elles continueraient à cibler des navires liés à Israël. Le Pentagone a affirmé ce 15 janvier qu'un navire américain a été pris pour cible par les Houthis dans le golfe d'Aden. La diplomatie russe a quant à elle déclaré, par l'intermédiaire de son représentant permanent à l'ONU, Vassili Nebenzia, que les frappes américano-britanniques sur le Yémen n'avaient rien à voir avec la légitime défense au titre de l'article 51 des Nations Unies. Au micro de Spoutnik Afrique, Mokhtar Saïd Medjouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne et expert en géopolitique, Souleymane Hamzat, consultant béninois en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, ainsi qu'Abdoulaye Nabaloum, panafricanistes burkinabés ont réagi aux derniers développements au Moyen-Orient. Monsieur Medjouni, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les Houthis du Yémen. Quels commentaires pouvez-vous faire ?
Oui, effectivement, le nouvel ordre économique, l'ordre politique mondial qui est en train de s'installer à travers la mise en place du groupe des BRICS, les différentes guerres russo-ukraine et ce qui se passe au Moyen-Orient, et d'ailleurs même les États-Unis eux-mêmes et l'Occident ont perdu énormément d'assises dans le monde arabe surtout, et dans le monde entier, quand on voit les sociétés, même les universités américaines, les sociétés occidentales qui se soulèvent contre cette guerre, font, et puis cette course sur la mer de Chine, avec la Chine concernant Taïwan, fait perdre les pédales, fait perdre la tête aux États-Unis. Bien sûr qu'en s'attaquant au Yémen, ils cherchent tout simplement une extension du conflit dans toute la région. Comme vous le savez, on est en 2024 et chaque président américain a toujours voulu sa guerre avant les élections.
Et vous, monsieur Hamzat, quelle est votre réaction à ces frappes américano-britanniques au Yémen ?
Ceux qui croient aux États-Unis d'Amérique n'auront que leurs beaux yeux pour pleurer. Vous voyez, c'est des gens qui sont dans la diversion, dans la perversité, hein, dans une très mauvaise analyse, n'est-ce pas, de la situation géopolitique et surtout dans l'hégémonie. Quand je parle d'hégémonie, d'hégémonie aussi bien au plan militaire, au plan économique, n'est-ce pas, qu'au plan politique. Vous voyez bien que c'est les mêmes qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit l'Afghanistan, qui ont détruit, si vous voulez, qui sont même en train de détruire le Yémen, qui le réattaquent, n'est-ce pas, de nouveau. Ce sont les mêmes qui sont en train d'allumer le feu en Palestine. Ceux qui se fieront, n'est-ce pas, ou se confieront, vont se confier, j'allais dire, n'est-ce pas, à la politique américaine, au dictat américain, ben écoutez, ils finiront tous, ces pays-là finiront tous, comme le cas de l'Irak et d'autres. Et enfin, ben, comprenez avec moi que la situation est telle que la géopolitique aujourd'hui est dictée par, n'est-ce pas, une apparition d'un certain bloc. Un bloc qui se veut totalement indépendant de l'hégémonie américaine, du dictat américain et de l'Occident. Ceux-là qui aujourd'hui, n'est-ce pas, disent lutter contre le Yémen, attaquent le Yémen, ont d'autres objectifs, hein. Les objectifs sont ailleurs. Et nous savons que ce qui se passe au niveau de la Palestine, par exemple, ce canal, ce fameux canal fantomatique de Ben Gurion dont on parle, qui doit être creusé au niveau de Gaza pour avoir accès à la mer, ben, tout ça là sont des enjeux, n'est-ce pas, géostratégiques qui relèvent de l'économie et pour lesquels ils sont prêts à tout. C'est des gens qui vous parlent de démocratie, ils vous parlent de droits de l'homme, mais aller bombarder un peuple à tout va, faire un génocide tel que nous le voyons au niveau de Gaza, cela ne stipule pas du tout que, n'est-ce pas, il faut se laisser faire et continuer à suivre des nations qui ont pour but que la destruction, n'est-ce pas, et le désordre. Ce sont des nations destructives qui créent le désordre à tout va et qui ne permettent pas à nos États de respirer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle le mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine au Bénin et d'autres dans la sous-région ont décidé, par exemple, de revoir leur copie par rapport à la politique américaine au Niger. Et nous sommes prêts à nous battre à ce que les États-Unis d'Amérique plient leur base du Niger et dégagent de l'Afrique en général.
Et vous, Monsieur Nabaloum, quelle est votre opinion ?
Mon avis est que les États-Unis n'entendent pas arrêter, effectivement, de se montrer ou de vouloir s'illustrer en gendarme du monde. Et nous avons vu l'histoire et les actions, les situations qui ont été créées en Afghanistan où, après plus de 20 ans, ils ont débarqué manu militari en laissant les Afghans eux-mêmes. Nous avons également vu la complicité du monde occidental conduit par les États-Unis dans la crise israélo-palestinienne tout récemment. Donc aujourd'hui, sous quel mandat est-ce que les États-Unis et puis le Royaume-Uni vont-ils s'en prendre à des communautés dans un autre pays? Quel est le mandat? Et quelle est cette forme d'impérialisme qui continue de s'illustrer et de se caractériser de façon négativement, qui véritablement, j'ai dit, remet en cause les efforts de paix que les uns et les autres sont en train d'organiser dans le cadre de la crise israélo-palestinienne. Donc, de mon avis, cette situation où les États-Unis veulent encore alimenter ce foyer de tension-là montre très clairement que ni Israël, ni les États-Unis, ni le monde occidental ne souhaitent que cette partie de l'Asie ne connaisse une paix véritable.
Monsieur Hamzat, comment voyez-vous les conséquences de cette attaque? Et va-t-elle aggraver encore davantage la situation qui est déjà tendue au Moyen-Orient?
Mais bien entendu que cette attaque-là va aggraver la situation. Parce que, vous voyez, c'est les mêmes qui vous parlent d'apaiser les tensions, n'est-ce pas, comme le fait le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Blinken. C'est les mêmes qui vous parlent de calmer les tensions qui allument le feu actuellement. C'est vous dire quoi? C'est le deux poids, deux mesures. en même temps qu'ils sont en train d'armer Israël à détruire la Palestine pour des objectifs que nous savons. Mais c'est les mêmes qui ont aidé à détruire l'Ukraine, à faire brûler complètement l'Ukraine. C'est les mêmes qui sont partout ici en Afrique aussi en train de foutre le bordel. D'ailleurs, ils sont en train, même en ce moment-ci, en train d'encercler les pays du Liptago Gourmand. Nous les observons, nous les avons à l'œil. Donc, écoutez, à un moment donné, n'est-ce pas, il faille que il y ait vivement, n'est-ce pas, cet ordre multipolaire, n'est-ce pas, que nous appelons aussi de vivre au même titre que le grand camarade de la Fédération de Russie, son Excellence le président Poutine, à qui nous apporterons un soutien total et indéfectible. Donc, ouais, il est temps que d'autres voix se lèvent pour dire non, niet, il en est assez, trop, c'est trop, et il faut que ça s'arrête. Mais cela ne pourra pas se faire que par des plateaux de télévision. Il va falloir, n'est-ce pas, aller aux actes. Et ce qu'ils viennent de déclencher là au niveau du Yémen, qui de par son passé est un état presque vraiment violent, je pense que ça va embraser le Golfe, parce que le Yémen possède des armes, n'est-ce pas, des armes de missiles de destruction massive. Qui, ma foi, à l'heure actuelle, ne sont pas contrôlés ni par les deux factions, aussi bien celle des rebelles que celle du gouvernement. Ça peut fuser de partout, à tout moment, et aller vers un embrasement total de la région. Un dernier point particulier, vous voyez, l'essor économique des nations du Golfe, et c'est pas quelque chose qui plaît à l'Occident. Vous voyez, sur la scène politique aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les grands rendez-vous politiques ne se tiennent plus en Europe, hein, ni en Occident. Tout est tenu en Arabie. Vous prenez le cas du sport de manière plus particulière dans le cadre de la culture. Vous vous rendez compte que voilà, c'est tous les grands joueurs européens sont en train de signer. Ils signent tous au niveau de l'Arabie, du Qatar, etc., etc. Vous prenez les grands festivals de culture, tout se mène là-bas, tout est dans le Golfe. Donc l'Europe et les États-Unis sont en train d'être dépossédés de leur puissance, n'est-ce pas, aussi bien économique, financière, et quelque part, faut pas oublier la destruction du dollar qui est en cours, n'est-ce pas, qui fuse de partout. Sa destruction fuse à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau, n'est-ce pas, monétaire, au niveau de la fluctuation même de cette monnaie-là. Donc, ils sont prêts à tout pour arriver à leurs objectifs machiavéliques et diaboliques.
Et vous, Monsieur Medioni, quelles peuvent être les conséquences de cette attaque, selon vous?
Les conséquences de cette attaque, connaissant bien le Yémen et les Houthis, une coalition qui a duré pendant des années n'a pas mis à genoux ni Houthis ni le Yémen, malgré les difficultés économiques. Mais leur position stratégique en mer Rouge, surtout devant la porte d'El Mendeb, fait que effectivement, ce conflit n'est pas prêt à voir la fin, et ça ne pourrait être qu'un signal très fort pour déclencher, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, moi, qu'on est déjà dans une troisième guerre mondiale, elle y est, elle s'est installée, il va y avoir une recrudescence des attaques à partir du Liban du Sud par le Hezbollah, sachant que ces deux groupes, les Houthis et le Hezbollah, sont très liés par la religion, surtout, c'est des chiites, tous les deux, mais surtout, concernant la Palestine, ils sont très liés, eux, le Hamas, le Hezbollah. Donc, je pense que même l'Iran n'échappera pas justement à cette guerre qui s'installe en mer Rouge.
Et vous, Monsieur Nabaloum, qu'en pensez-vous?
Aujourd'hui, le monde entier, en travers, en tout cas, le multipolarisme que les BRICS impulsés par la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, nous donne l'espoir de la baisse de la violence dans le monde entier. Mais à chaque fois qu'il y a des actions tendant véritablement à apporter la paix, le monde occidental et les États-Unis trouvent toujours l'occasion de semer les germes de la division, de semer les germes de la violence, d'organiser la violence et même d'orchestrer la violence. Et cette situation au Yémen, qui ne date pas d'aujourd'hui, nous avons vu à travers les médias comment est-ce que ce peuple-là souffre du martyr. D'abord avec l'Arabie Saoudite, où la complicité internationale s'était organisée sous l'impulsion des États-Unis et du monde occidental pour cantonner ce pays qui ne demande qu'à vivre dignement du peu d'espace qu'il dispose. Donc, nous comprenons aussi que cette situation peut aussi se caractériser par la perte de vitesse au plan international de la politique américaine, de la politique de domination occidentale. Donc, c'est l'occasion pour eux encore de semer des foyers de tension pour que le monde soit en ébullition, pour que les populations souffrent et que eux, ils puissent exercer leur puissance.
Monsieur Nabaloum, au niveau économique, quelles conséquences l'attaque peut-elle avoir sur les prix du pétrole? Et peut-elle affecter le trafic des pétroliers et des navires citernes en mer Rouge? Qui pourrait en bénéficier?
La guerre a toujours été le moyen de refinancer, ou en tout cas le moyen pour les Américains de financer leur économie. Il faut créer la guerre pour financer et donner la situation de vie économique à sa population. Il y a aussi cet aspect économique se caractérise par deux éléments. Et ces deux éléments, c'est quoi? C'est l'exploitation des ressources. Et le deuxième élément, c'est la vente des armes. Donc, toute guerre qui est engagée, en tout cas nourrie de pouvoir développer des aspects financiers importants pour ce qui concerne ces deux volets assez importants.
Monsieur Hamzat, quelles peuvent être selon vous les conséquences de cette attaque et qui pourrait profiter de la situation?
Écoutez, Washington a perdu les pieds. Washington a perdu la vue. Washington a la tête dans les nuages. Vous savez, je suis pas de ceux qui font dans la dentelle. À l'heure actuelle, prenez ne serait-ce que les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. Voilà des relations qui ont du plomb dans l'aile. Le prince Salman, avec un dynamisme à nul autre pareil, a su remettre le président Biden à sa place quand il venait pour commander du pétrole. Aujourd'hui, les données ont changé. Le monde se voit autrement que par leur dictat. Les choses ont complètement changé. Donc, vous souffrez que de nos jours, la destruction du Moyen-Orient ou du Golfe soit une priorité pour ces gens-là. À travers cette guerre du Yémen qui ne s'est d'ailleurs jamais arrêtée, qui a commencé depuis, qui a fait perdre beaucoup de fils, qui a fait tomber beaucoup de ses fils. Et à côté, on allume un autre feu au niveau de la Palestine. Mais on finira où? Vous voyez, aujourd'hui, il y a un Irak. L'Irak y est attaqué des bases américaines. Et ça va continuer pendant combien de temps? Donc, faisons une synthèse pour dire que actuellement, ce conflit-là risque de vaciller, ça risque d'aller dans tous les sens, si tel est que les Américains ne mettent pas un terme à leur hégémonie, à leur tendance à l'hégémonie, n'est-ce pas, et au dictat, n'est-ce pas, sur la planète.
Et vous, Monsieur Medioni, qu'en pensez-vous?
Je ne vois pas de chance pour les États-Unis de réussir une guerre au Moyen-Orient. Alors, dans l'histoire, dites-moi tout simplement si un jour les États-Unis d'Amérique seul ou avec une coalition ont gagné une guerre. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre du Vietnam? Je vous dirais non. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre en Irak? Non. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre en Syrie? Non. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre en Libye? Non. Donc, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci les États-Unis puissent gagner la guerre au Moyen-Orient. C'est l'histoire qui se répète, c'est les échecs pour l'impérialisme américain qui se répètent. Parce que tout d'abord, les Houthis, même en intervenant en mer Rouge, ils sont dans leur territoire, dans leur terre. Et puis, cette attaque, justement, quand un pays souverain démontre à quel point il y a un groupe de nations qui ne respectent pas le droit international. Et justement, est-ce que les Houthis ont attaqué les côtes américaines? Pour qu'on parle aujourd'hui, j'entendais sur toutes les chaînes, parler que cette attaque est un acte de défense pour les États-Unis. Quelle défense? Est-ce que les Houthis se sont attaqués aux côtes américaines? Est-ce que les Houthis se sont attaqués aux côtes britanniques? Donc voilà, c'est juste des atteintes à la souveraineté des nations qui se répètent, mais qui se terminent toujours par des échecs. On se rappelle l'Afghanistan, dans quelles conditions ils sont repartis de l'Afghanistan.
Monsieur Medioni, peu avant l'attaque, on a Anthony Blinken qui a déclaré que les USA et le Moyen-Orient étaient prêts à œuvrer pour la paix dans la région. N'y voyez-vous pas de contradiction ?
Et ça fait rire ces déclarations de Anthony Blinken. Anthony Blinken qui fait la tournée comme ils l'ont fait ses prédécesseurs pour l'Irak, pour demander aux Arabes de mettre la main à la poche pour reconstruire l'Irak. Donc voilà, on fait des guerres pour reconstruire. Et généralement, c'est les entreprises de ces États qui font la guerre, qui bénéficieront de la manne financière. Ben, Anthony Blinken qui œuvre pour la paix. Quand on voit le veto américain contre le cessez-le-feu, alors je vois pas sincèrement, en tant que citoyen lambda de ce monde, comment qu'on puisse parler de paix, alors qu'on met tous les obstacles à la paix. Le dernier en date, le vote au Conseil de sécurité avec le veto contre la demande d'un cessez-le-feu à Gaza.
Monsieur Medioni, Joe Biden n'a pas avisé le Congrès du commencement de cette offensive et a donc violé la Constitution américaine. Washington et Londres n'ont pas non plus avisé le Conseil de sécurité de l'ONU. Peut-on dire que les États-Unis et leurs alliés agissent en toute impunité en transgressant le droit international ? Comment l'expliquer ?
Joe Biden, ni le Premier ministre britannique n'ont fait référence ou ne se sont référés d'abord à l'autorisation qui est constitutionnelle du Congrès ou de la Chambre des représentants. Bon, voilà, ça démontre à quel point ces sociétés occidentales et ces gouvernements occidentaux sont dans la déchéance la plus totale. Ils ne respectent même pas leur propre loi, leur propre constitution. Donc, le Conseil de sécurité, pour moi, il n'existe plus. Déjà, ça fait très longtemps que ce Conseil ne sert plus à rien. Et à partir du moment où il y a 5 nations qui usent d'un veto, ça bloque le Conseil de sécurité, ça bloque les droits de l'humanité. Je ne vois pas, alors si leurs propres lois sont transgressées, comment peut-ils respecter le droit international? Ils ne l'ont jamais d'ailleurs respecté. Est-ce qu'on n'a pas fait une entorse à la résolution du Conseil de sécurité concernant la Libye, qui parlait d'une zone d'exclusion et pas d'un bombardement massif de la Libye? Ben, ils l'ont fait souvent. Et la communauté, elle est là à regarder, à attendre. Mais on attend quoi d'un Conseil de sécurité ou d'une Assemblée générale des Nations Unies qui ne sert plus à rien et qui doit être réformée par les peuples de ce monde parce que les gouvernants, hélas, n'ont plus le jeu en main.
Et vous, Monsieur Hamzat, comment expliquez-vous cette attitude de Washington vis-à-vis du droit international ?
Déjà, il faut s'interroger sur ce que c'est que le droit international. Qu'est-ce que le droit international ? Est-ce le droit de prendre des avions impunément, sans aucune règle préalable, sans aucune concertation, et d'aller bombarder un pays sous prétexte qu'on souhaiterait installer les droits de l'homme ou la démocratie ? Ben, écoutez, il y a bien des pays sur cette terre-là qui vivent sans la démocratie. N'est-ce pas? La Corée du Nord, elle est là, mais qui parle démocratie là-bas? Mais la Corée du Nord ne manque pas de quoi manger. Il se développe à tous les niveaux, aussi bien infrastructurel, militaire, etc., etc. C'est même l'un des pays dont les États-Unis ont le plus peur. On nous parle de quoi? Il parle de, franchement. Et puis ce monsieur-là, franchement, à son âge, je pense qu'il devait prendre une retraite. Parce que il faut le confondre déjà à travers, n'est-ce pas, ces paroles, n'est-ce pas, dans lesquelles lui-même il ne se retrouve pas. Le fait de faire des confusions même entre des personnalités, pensant que il a vu sa femme ou il a vu l'oncle ou il a vu, etc. Ça semble dangereux pour l'avenir, n'est-ce pas, même des États-Unis d'Amérique. Il va falloir que les Américains y réfléchissent et pensent et songent à voir que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'administration américaine sont en train de créer d'énormes problèmes à cet État-là. La crainte de voir que plus tard, ben écoutez, on risque de nous retrouver, n'est-ce pas, dans un conflit interne au niveau des États-Unis. D'ailleurs, le président Trump l'a dit, ça risque de s'embraser si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Donc, nous parler du droit international, venir nous parler de démocratie, agir en toute impunité, sans l'aval de l'ONU, voilà encore une coquille vide. n'est-ce pas? Une coquille vide qui ne, de nos jours ne sert à rien du tout et qui demande vraiment un démantèlement. Il faut dissoudre cette connerie-là. Il faut dissoudre cette connerie et puis trouver cette organisation-là fêtière et trouver, n'est-ce pas, d'autres organisations comme les BRICS et autres pour réorganiser ce monde. Vous voyez, ce qui arrive aujourd'hui au niveau des Américains, ce qui se passe, leur agissement violent, n'est-ce pas, à travers toutes les nations qui sont attaquées aujourd'hui, pour moi, n'est-ce pas, une lecture, n'est-ce pas, de fin de cycle de règne pour des États comme ça.
Monsieur Hamzat, au niveau économique, quelles conséquences l'attaque peut-elle avoir sur les prix du pétrole? Et peut-elle affecter le trafic des pétroliers et des navires citernes en mer Rouge? Et qui pourrait en bénéficier, selon vous?
Oui, mais écoutez, quand vous décidez d'attaquer le Yémen, par exemple, qui contrôle une large partie, une grande partie, n'est-ce pas, de cette plateforme maritime, mais c'est engager d'autres nations dans ce conflit-là, d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas oublier, le Yémen aujourd'hui est un État déstabilisé du point de vue militaire, déstabilisé du point de vue politique, déstabilisé du point de vue organisationnel. Donc, tout peut fuser de ce territoire-là. D'autres même peuvent s'incrustrer dans une zone rebelle, par exemple, et réagir et avoir des attaques ciblées, stratégiques, n'est-ce pas, et chirurgicales sur des navires américains, par exemple. Et ça peut s'embraser comme ça. Ils n'ont pas le monopole de la force ou de la violence, les Occidentaux. Il y a bien d'autres nations qui ont ce monopole-là et qui finiront par le dire non. Et vous voyez, respect au président Poutine, qui d'ailleurs, avant-hier, a pris, lors de son discours, a mis Israël en garde contre tous ces agissements, ce génocide qui est en cours. Et soutenu par qui? Par les mêmes États-Unis. Pas les États-Unis. Ça peut pas continuer. Il va falloir à un moment donné que ça s'arrête. Et vous voyez, le prix du pétrole était déjà complètement en hausse. Avec ce trafic-là, sûrement que les bateaux auront du mal à certainement passer dans la même région. Il faut contourner ou il faut arrêter le trafic, mais ça va être une paralysie, une catastrophe au plan économique, non seulement du point de vue de la gestion de différentes nations, mais en particulier sur le trafic même au plan mondial. Il y aura une flambée des prix à tous les niveaux. Vous savez que le pétrole reste la base de l'industrie aujourd'hui. On nous parle des énergies fossiles et tout ça. Bon, tout ça, c'est du pivot. Nous savons que le pétrole, même dans 100, 200 ans, ça ne s'arrêtera pas. Le monde a besoin de pétrole. Et ce canal-là, ouais, ce canal-là est l'un des canaux par lequel transite tout le trafic commercial au niveau mondial. Donc, aller mener une guerre à un pays qui fait face à ce canal-là, mais c'est procéder à la fermeture du canal de manière intentionnelle et d'amener peut-être le monde dans un bordel. Il va falloir qu'on ne suivons plus les États comme les États-Unis d'Afrique, de la Grande-Bretagne, la France, ces États démoniaques, sataniques. Il va falloir ne plus les suivre. Et s'imposer à eux, même au risque et au péril de nos vies. Ce sont des États qui sont démoniaques, dont les dirigeants sont des satanistes. Nous le disons en haut et intelligible voix. Et il faut assumer, j'assume mes propos, il va falloir que aussi bien les nations du Golfe et du Moyen-Orient se réveillent de manière unanime sur la question, décide déjà d'un nettoyage total des bases américaines qu'ils ont dans le Golfe, des bases occidentales, tout ce qu'il y a de velléité, de déstabilisation dans les États soit fait et qu'il en soit ainsi pour l'Afrique aussi.
Et pour vous, Monsieur Medioni, qui profitera de la situation?
Eh ben, pour ce qui est de l'enjeu économique, il n'y aurait pas eu d'attaque actuellement, surtout que les Américains, les Occidentaux, parce que c'est pas l'entité sioniste, c'est pas Israël qui fait la guerre à Gaza, c'est toute une coalition. À regarder le nombre de soldats de plusieurs pays occidentaux dans les rangs de Sahel, on comprend que c'est une coalition, sans parler de toute l'armada navale qui est mise en place devant les côtes de Gaza. Voilà, mais si s'il n'y avait pas un enjeu économique, je ne pense pas que les Occidentaux seraient attaqués aux Houthis, parce que les Houthis sont arrivés justement à créer un grave problème économique dans la région, dans le monde entier. C'est l'économie mondiale qui est impactée par cette insécurité de circulation en mer Rouge, et ça touche aux intérêts des Américains et des Occidentaux en général concernant le trafic maritime international. On a remarqué que les assurances ont augmenté, et rien que depuis l'attaque, regardez les prix du pétrole, comment ils se sont envolés. Et il y a actuellement une réelle menace sur l'économie mondiale, et s'il y a une récession économique mondiale, est-ce que les Américains pourront faire face à cette récession avec les difficultés économiques qu'ils vivent en ce moment?
Monsieur Medioni, je voudrais conclure avec vous sur une dernière question. Pour l'Ukraine, l'escalade de ce conflit au Moyen-Orient la prive non seulement de l'attention de l'opinion publique internationale, mais aussi de financement. Volodymyr Zelensky se rend à Davos au Forum économique international, où il tentera d'attirer l'attention de ses sponsors occidentaux. Le sort est-il scellé pour l'Ukraine, ou l'Occident voudra-t-il continuer à jouer les prolongations?
Le malheur de l'Ukraine, justement, c'est cette guerre à Gaza. L'Ukraine est déjà une guerre oubliée. L'Ukraine, qui a déçu l'Occident avec tous les efforts financiers qui ont été consentis pour alimenter les Ukrainiens, l'Ukraine n'a pas réussi sa contre-offensive. L'Ukraine ne peut pas reprendre même pas un centimètre de ce qui lui a été pris comme terre par les Russes. Les Russes continuent à avancer, à sécuriser toute la région qu'ils ont entre les mains. Et puis l'Ukraine, tous les spécialistes s'accordent à dire que cette Ukraine, que Zelensky avec son équipe qui sont embourbés dans des affaires de corruption, une corruption d'État, ne pourront jamais défendre les intérêts de l'Ukraine ni du peuple ukrainien. Et de ce fait, je pense que c'est déjà une guerre oubliée et que la Russie, par sa méthode actuelle, elle sécurise, elle s'installe, elle consolide ses positions, et ça va ne faire que amener les Ukrainiens à se rendre et à demander des négociations pour sauver ce qui reste à sauver.
C'était Mokhtar Saïd Medioni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne et expert en géopolitique, Souleymane Hamzat, consultant béninois en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, ainsi qu'Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé pour Spoutnik Afrique. Ils nous ont fait part de leurs analyses de la situation au Moyen-Orient. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de créer une commission tripartite afin d'accélérer leur coopération. Selon l'agence d'information burkinabé, cette décision a été prise à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié à Niamey fin décembre, des délégations de haut niveau de Bamako et de Ouagadougou. L'agence de presse burkinabé a rapporté que la création de cette commission interviendra dans les plus brefs délais. Au micro de Spoutnik Afrique, Idrissa Ouedraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta, Riyad Sidaoui, politologue tunisino-suisse, ainsi qu'Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, ont commenté cette initiative de l'AES. Monsieur Ouedraogo, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de créer une commission tripartite pour booster leur coopération en différentes matières. Comment voyez-vous le potentiel économique de l'Alliance?
En effet, en termes de potentiel économique de cet espace-là, on peut citer des ressources humaines de grande valeur, un sous-sol riche, mais qui était laissé à la merci de l'impérialisme, des espaces de production considérables, mais jadis sous-exploités, des ressources naturelles telles que l'uranium, l'or, le pétrole, le zinc, et j'en passe. Alors, tout ce potentiel économique dormant ou mal exploité peut et doit sortir nos États de la pauvreté. Et vous comprenez tous que c'est un engagement pour l'ensemble des chefs d'État de l'AES d'utiliser de façon rationnelle, de façon juste et au profit des populations toutes ces ressources pour un développement harmonieux, équitable et durable. La preuve que l'espace AES a un potentiel économique non négligeable pour l'espace CEDEAO. Il faut seulement rappeler le cas du Bénin qui, à la faveur des sanctions injustes imposées par la CEDEAO à la République du Niger, avait suivi en fermant ses frontières avec le Niger. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le Bénin, son économie se trouve être essoufflée. Et aujourd'hui, ce pays-là fait des pieds et des mains pour négocier le retour des opérateurs économiques du Niger vers les ports de la République du Bénin.
Et vous, M. Trunkara, quelle évaluation du potentiel économique de l'AES pouvez-vous nous faire?
Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont décidé la création d'une commission tripartite pour booster leur coopération, notamment sur le plan militaire. Cela est une nécessité absolue aujourd'hui quand on regarde les parties dites de l'Itako-Gourma, donc les parties frontalières Mali, Burkina Faso et Niger. Ce sont ces parties qui constituent l'épicentre de l'insécurité provoquée par les hommes de l'État islamique. Par cette commission, naturellement, dans les mois à venir, les trois pays vont évoluer sur les plans militaires sous le même commandement afin de réduire de façon sérieuse la présence des hommes d'Al-Qaïda et même de l'État islamique dans l'Itako-Gourma, donc les parties dites des trois frontières. Et cette commission, elle va avoir comme particularité le fait que les trois armées réunies auront un seul commandement, et de même également les différents équipements des trois armées vont connaître une sorte de mutualisation des efforts, tant en termes de fourniture d'équipements qu'en termes justement de mise à disposition des éléments de force défense et de sécurité. C'est quelque chose qui n'a pas été tout à fait visible avec la force conjointe du G5 Sahel, de même également, cela n'a pas été visible au moment où la France et les autres forces européennes étaient présentes au chevet de ces militaires sahéliens. Donc, avec l'Alliance, il n'y a plus ces barrières géopolitiques, géostratégiques qui se dresseraient contre la mise en place d'un commandement commun afin de lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme violent et même les conflits locaux dans ces localités dites des trois frontières.
Et vous, M. Sidaoui, quelle est votre opinion sur ce sujet?
Évidemment, ils ont un potentiel parce que cette union, si vous voulez, est le fruit aussi d'une coordination. Nous savons bien que la France et les États de l'OCDE, les QAS, ont voulu intervenir militairement au Niger. Donc, le Burkina Faso et le Mali ont manifesté une solidarité totale avec Niger. Ils ont mobilisé même leurs troupes afin de défendre le Niger et le nouveau gouvernement. En fait, ce qui se passe, c'est que l'influence de l'ex-colonisateur français est en train de disparaître. Donc, ce sont des jeunes officiers libres. Ça nous rappelle les jeunes officiers des années 60 et les coups d'État militaire, mais révolutionnaires, hein, puisqu'il s'agit de renverser et lutter contre la présence coloniale dans leur pays. Et la France exploite les richesses de ces pays. La France exploite l'or du Mali, l'uranium du Niger, et elle a des bases militaires dans cette région. Donc, ce sont des jeunes officiers révolutionnaires qui ne cachent pas leur sympathie avec la Russie et la Chine. D'ailleurs, on a vu des manifestants qui hissent le drapeau russe et brûlent le drapeau français. Donc, c'est une coalition qui a plusieurs dimensions. La dimension économique. Donc, ils attendent un soutien économique de la part de la Chine et de la Russie. C'est une coalition politique, évidemment, et diplomatique face à la France et en particulier et à l'OTAN en général. C'est une coalition militaire aussi, parce que le Niger a été menacé sérieusement d'une invasion militaire par la France, d'où ce réveil.
Monsieur Sidaoui, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont récemment relevé la nécessité d'une union économique et monétaire. Cette union pourrait-elle, selon vous, mener à l'abandon du franc CFA, monnaie considérée comme un vestige du colonialisme ?
Évidemment, le franc CFA, là, c'est un héritage du colonialisme français. Et d'ailleurs, on parlait souvent que parmi les motivations françaises d'attaquer la Libye et d'assassiner Mohamed Gaddafi, parce qu'il veut renverser ce fameux franc en introduisant l'alternative qui est le dinar africain. Donc, évidemment, c'est la langue française, que ce soit le français ou le français, enfin, c'est sont deux piliers de la France dans cette région. Et renverser et éliminer l'influence française dans cette région, c'est évidemment attaquer la langue. D'ailleurs, ce que Burkina Faso et le Mali ont commencé à le faire, puisqu'ils introduisent l'anglais et puis l'enseignement des langues nationales à la place du français. Et évidemment, et en plus, c'est une alliance contre une autre alliance qui est à la fois anglophone et francophone, souvent dirigée par le Nigeria, des pays de l'ECOWAS, l'OCDAO. On dit OCDE, je pense en français, les pays d'ECOWAS en anglais, et qui ont menacé d'installer des embargos et des sanctions contre le Niger tout d'abord. Donc il y a une réaction de solidarité. Comme j'ai dit, le point commun entre ces trois pays, c'est qu'ils sont dirigés par des jeunes officiers militaires révolutionnaires et qui veulent en finir avec l'influence française, l'influence économique, l'exploitation des richesses de leur pays. Évidemment, il y a la langue, le français et le franc CFA.
Et vous, M. Ouédraogo, pensez-vous que cette union pourrait mener à l'abandon du franc CFA ?
L'adhésion de nos États en ce 21e siècle au CFA est un scandale. C'est une honte et il faut les dénoncer. Mieux, les peuples ne sont plus pour cela. Sauf que sortir du CFA est un processus. Et vous savez que pour des raisons stratégiques, quand on est à un certain niveau de responsabilité, on se réserve de dire certaines choses. Mais tous ceux qui savent que les chefs d'État de l'AES et leurs gouvernements respectifs écoutent leur peuple, savent que quitter le franc CFA sera le couronnement parfait de la vision que défendent en commun ces trois pays aujourd'hui.
Et selon vous, M. Tunkara, cette union a-t-elle scellé le sort du franc CFA ?
Il semblerait qu'aujourd'hui, si vous échangez avec un nombre important de Maliens, de Burkinabés et même de Nigériens, beaucoup vous diront que le symbole du franc CFA est un symbole esclavagiste. Au-delà de sa dimension symbolique, la manière dont cette monnaie, le CFA, lierait les États de lui et moi, donc de l'Union monétaire ouest-africaine, à la France, n'est pas du tout une situation honorable au XXIe siècle. De ce fait, il a été par moment et par endroit demandé aux différents responsables, à la limite de la CEDEAO, d'également sortir du franc CFA. Mais cette aventure avait été écourtée, voire bafouée par l'attitude du président ivoirien vis-à-vis du président français. Naturellement, la question d'écho, de monnaie qui allait être appelée écho, n'a malheureusement pas pu résister aux interférences occidentales, en particulier celle de la France. Maintenant, le pays de l'Alliance, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au regard de leur rapport tendu avec les institutions régionales, sous-régionales, au regard de leur rapport tendu avec la France, et ils ont décidé de se diriger vers non seulement la création d'une monnaie commune, mais dans le même temps de se soustraire de toute forme de dictat financier qui viendrait soit des organisations sous-régionales comme la CEDEAO ou même des partenaires étrangers comme la France et d'autres pays. Donc, une volonté d'autonomisation vis-à-vis des instances de la sous-région qui restent, à leur entendement, très dépendantes des puissances étrangères, mais également une volonté qui prouve à suffisance que les États du Sahel sont mûrs, ont la maturité, ont l'intelligentsia, ont toute l'expertise pour proposer une monnaie et la garantir sans aucune forme d'interférence d'un pays tiers.
Monsieur Tunkara, la commission tripartite vise entre autres la lutte antiterroriste. Quelles mesures devraient-elles être prises afin de réussir cet objectif selon vous ?
Les mesures fortes qui doivent être engagées en toute urgence par cette commission tripartite, c'est d'aller rapidement vers la mise en place d'un commandement commun, donc au côté militaire, afin de lutter efficacement contre la nébuleuse terroriste. Mais l'autre urgence qui attend cette alliance, c'est aussi de faire en sorte que les causes structurelles de l'insécurité, qui sont le sous-développement.
Et pour vous, M. Sidaoui, quelles mesures sont à mettre en place ?
Nous savons bien aussi que le terrorisme a frappé fort cette région de Sahel. Tout d'abord, le terrorisme qui se déplace, qui était en Syrie, en Irak, puis s'est déplacé en Libye, puis de la Libye, maintenant, il se concentre dans ces pays africains de Sahel. D'ailleurs, le président Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a posé une fois une question, comment des milliers de tonnes d'armes sont allées de la Libye vers la région du Sahel. Et officiellement, je dis, des porte-parole des gouvernements, que ce soit de Burkina Faso ou de Mali ou de Niger, ont accusé le gouvernement français de soutenir des organisations terroristes dans la région. On a les déclarations officielles, donc ce sont des accusations officielles qui viennent de ces trois gouvernements contre la France. La France soutient les terroristes dans cette région. Évidemment, le terrorisme est utilisé souvent afin de déstabiliser des États ou des pays dans leur politique étrangère et leur politique nationale. Ne correspond pas aux aspirations des puissances coloniales.
Et vous, M. Ouédraogo, qu'en pensez-vous ?
La lutte contre le terrorisme est au centre des objectifs de l'AES. C'est vrai, au-delà du fait que les États de l'AES sont liés par l'histoire et la géographie, il faut dire que la motivation majeure de sa création, c'est l'insécurité, le terrorisme qui nous est imposé par qui nous connaissons tous. Alors, des mesures fortes qui tendent à mutualiser les efforts pour mieux traquer les terroristes et lutter contre les causes de ce terrorisme ont été prises par nos trois chefs d'État à travers l'Alliance des États du Sahel. On peut retenir la possibilité de traquer l'ennemi, même au-delà des frontières, grâce à la mise en place de l'AES, parce que cela n'était pas possible avant, des opérations conjointes entre les armées des pays de l'espace AES. De même, parlant de lutte contre les causes du terrorisme, nous savons tous que la pauvreté pousse les jeunes à adhérer à ce fléau. Et quand vous prenez les sanctions de la CEDEAO, elles sont encore un moyen pour favoriser cela, pour favoriser l'adhésion des jeunes au terrorisme. Mais vous avez tous constaté que, de manière spontanée et extraordinaire, le Mali et le Burkina Faso ont décidé, malgré la modicité de leurs ressources, d'apporter un soutien indéfectible au Niger en vue d'atténuer la souffrance de ses populations. Souffrance qui a bien sûr été aggravée par les sanctions de la CEDEAO.
Monsieur Ouédraogo, quel est selon vous l'avenir de l'AES ? Peut-on s'attendre à son élargissement ?
L'élargissement de l'AES est une évidence. Tous les signaux montrent que les peuples d'Afrique sont fatigués du système de domination dans lequel ils se trouvent. Vous avez vu quand la CEDEAO a déclaré la guerre au Niger, comment les chefs d'État de certains pays se sont retrouvés seuls face à leurs décisions incongrues. Leurs propres peuples se sont opposés et ces chefs d'État n'ont pas encore fini de subir les conséquences de leurs égarements. Quand on suit l'actualité, on perçoit de nos jours le ressentiment des peuples africains. Et la volonté de ces peuples ne peut pas être éternellement embrigadée par un ou une poignée de dirigeants. J'ajouterai aussi que désormais, on est conscient que le colon avait balkanisé l'Afrique pour assouvir ses intérêts inavoués. Les nombreuses idées progressistes qui se développent un peu partout en Afrique vont finir par imposer, pas seulement l'élargissement de l'Alliance des États du Sahel, mais la création d'autres vrais espaces réels de développement économique, social et culturel qui collaboreront avec l'AES pour donner de grands ensembles qui vont finir par faire de l'Afrique la plaque tournante de toutes les opportunités de développement de demain. Et ça, c'est ma conviction.
Et pour vous, M. Sidaoui, quelles sont les perspectives futures de l'AES?
Oui, au plan Afrique, tout d'abord, comme j'ai dit, c'est l'alternative de notre organisation, qui est le CDAO, là. Le CDAO, qui est les pays de l'ECOWAS, puisqu'ils ont failli intervenir en Niger militairement avec la France. Donc, c'est une nouvelle alternative. D'autres pays, évidemment, la République centrafricaine, hein, et d'autres pays aussi. Nous attendons d'autres officiers militaires libres, révolutionnaires, qui renversent des gouvernements qui sont très pro-français, installés par la France. Donc, ça va être élargi, évidemment. Et surtout, ces jeunes officiers, ils ont compris que le monde a changé. Le monde a changé. Maintenant, le monde n'est plus dominé par une seule puissance mondiale, mais il y a plusieurs puissances. Il y a plusieurs puissances. Et au plan économique, évidemment, on a la Chine. Au plan militaire, on a la Russie. On a les pays du BRICS. Donc, ils n'ont pas caché qu'ils vont tendre la main vers ces pays et encourager d'autres mouvements révolutionnaires dans d'autres pays africains afin de mettre fin à tout ce qui est pillage des richesses, des matières premières des pays africains.
Et vous, M. Tunkara, comment voyez-vous le futur de l'AES?
L'autre défi qui attend cette alliance, c'est de s'attaquer également aux causes structurelles de l'insécurité qui sont le sous-développement, l'injustice, les questions de distance entre les capitales et les parties frontalières des États, à comment réduire ces distances par la réalisation de routes, par le développement des transports communs. Et tout cela, ce sont des défis qui s'appellent longtemps, qui demandent également des moyens financiers extrêmement conséquents et même des moyens humains extrêmement élevés. Donc, de ce fait, il est urgent aujourd'hui que la mobilité à travers des moyens de transport très adaptés entre ces trois États soit une réalité. Et pour ce faire, les États doivent s'attaquer afin que le désenclavement soit considérablement anéanti. Les autorités doivent également s'attaquer à tout ce trafic qui serait aussi favorable à la présence sérieuse de groupes radicaux violents, y compris même toutes ces routes clandestines qui sont empruntées par les passeurs de migrants, par les acteurs engagés dans la drogue, et de même également par ces mêmes groupes radicaux violents, donc par ces terroristes. Une fois que tous ces enjeux compris et partagés par ces trois pays, en termes de mutualisation des efforts, en termes de désenclavement, en termes de soulagement des souffrances des populations de part et d'autre, à travers la délivrance en quantité et en qualité d'un certain nombre de services sociaux de base, tels que l'école, la santé, l'eau, sont entre autres aujourd'hui des urgences auxquelles les trois pays réunis doivent faire face afin d'avoir un ancrage durable auprès des communautés, notamment celles qui vivent dans les localités en proie aux attaques terroristes et aux conflits.
C'était Idrissa Ouédraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta, Riyad Sidaoui, politologue tunisino-suisse, ainsi qu'Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté la prochaine création d'une commission tripartite entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso au sein de l'AES afin d'accélérer leur coopération. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.